Alors donc aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, le thème, c'est le roi, le royaume. Jésus-Christ roi, on est toujours dans la doctrine de Christ. Et j'aimerais, dans ce but, lire d'abord dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 10. Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, un premier verset. Ézéchiel a une vision assez surprenante, où il voit une représentation de Dieu finalement, hein. En tout cas des êtres dont il est dit que un de leurs visages ressemblait à celui des hommes ou d'un homme, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà, on peut continuer, on aurait pu continuer à lire davantage, mais ça nous suffira. Donc c'est une vision qu'il a, hein. Ézéchiel 1:10, et on retrouve cette vision dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. C'est intéressant de voir, donc dans l'Ancien Testament Ézéchiel, dans le Nouveau Testament c'est Jean, hein, dont il est dit, voilà, devant le trône il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu, autour du trône, se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, on retrouve le lion. Le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Voilà, donc on retrouve encore ces quatre représentations. Et entre les deux, entre Ézéchiel et Jean, eh bien, il y a celui qui accomplit finalement cette vision. C'est Jésus, parce que ça nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, finalement, peut être vu sous quatre aspects. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il y a quatre évangiles. Hein. C'est intéressant parce que on voit ici que c'est l'ordre de quatre évangiles, d'ailleurs. Parce que le premier, c'est le lion, le roi. Le deuxième, c'est le taureau, c'est le serviteur, c'est l'évangile de Marc. Le troisième, c'est l'homme, c'est l'évangile de Luc. Et le quatrième, c'est l'aigle qui parle de Jésus-Christ comme le Dieu, hein, fils de Dieu, et c'est l'évangile de Jean. Et nous verrons ces quatre évangiles, ces quatre aspects de Jésus dans les dimanches qui viennent. Donc aujourd'hui, ça sera l'évangile de Matthieu, dont on a lu d'ailleurs ce passage, hein, de chercher le royaume de Dieu. Jésus, qui est présenté ici comme le roi des Juifs, le lion, hein, le roi des animaux, c'est aussi Jésus, le roi des Juifs. Donc c'est ce qui va nous intéresser ce matin. L'évangile de Matthieu. Regardez, ouvrez Matthieu, si vous commencez, vous êtes un juif par exemple, vous êtes juif, vous lisez tout l'Ancien Testament, et puis on vous donne le Nouveau Testament. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, pour un juif, qu'est-ce qu'il lit? Regardez, Matthieu chapitre 1, verset 1. Il n'est pas choqué, il n'est pas vraiment choqué, parce qu'il dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Bon, fils de David, fils d'Abraham. On est complètement dans la continuité de l'Ancien Testament. Pour un juif, hein, il peut entrer dans cette lecture à toute une généalogie de Jésus. Hein, il n'est pas dérouté. Hein, on commence avec Abraham, etc. Et puis ça continue, hein, jusqu'à Jésus. Hein. L'évangile de Matthieu est écrit par un juif, pour les juifs, avec une moyenne de 3 citations de l'Ancien Testament par chapitre, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a en tout environ 75 citations de l'Ancien Testament. C'est truffé de textes. Un juif qui lit Matthieu, il dit, mais c'est l'Ancien Testament. Hein, c'est référence à des personnages, référence à des événements, accomplissement de prophéties. D'ailleurs, l'expression clé de Matthieu, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait quelle est l'expression qui revient souvent dans Matthieu? Au moins 15 fois. Afin que s'accomplisse. Regardez Matthieu chapitre 1, verset 22-23. Matthieu chapitre 1, verset 22-23, nous lisons, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous, le prophète, donc Ésaïe, afin que s'accomplisse. Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et le thème du livre, c'est le roi et son royaume. D'ailleurs, tout de suite au chapitre 2, comment ça commence? Chapitre 2, regardez, versets 1 et 2. Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce qui vient de chercher le roi des Juifs? D'ailleurs, c'est avec ce titre que Jésus sera condamné et crucifié. Nous allons lire ensemble Matthieu 27 à partir du verset 26. On va le lire ensemble. On va le projeter, on va lire ensemble ce texte. C'est bon de lire parfois ensemble la parole de Dieu. Ne cherchez pas dans votre Bible, on va le lire au tableau. On va le lire ensemble. On va lire ce texte et voir lui, le roi, ce qu'il a subi pour nous. On y va. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Le roi. Il y a un cantique qui dit « Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. » Voilà notre roi, Jésus. Aucun roi n'a fait ça. Aucun roi n'a accepté d'être humilié, d'être moqué, de mourir pour son peuple. Mais Jésus l'a fait. C'est le roi que nous aimons, c'est le roi qui nous aime. Verset 37 de ce même chapitre, regardez un peu plus loin ce qu'il dit. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs !» Et Luc prendra la peine de dire que ce panneau qui est écrit dessus était écrit donc en hébreu, en grec, en latin et en hébreu, en trois langues, pour dire à Jésus, voilà, que tout le monde comprenne bien, c'est le roi des Juifs. Oui, c'est le roi des Juifs. Ils écrivaient cela pour se moquer, peut-être, mais il est vraiment le roi des Juifs. C'est Nathanaël qui dira dans l'évangile de Jean qu'il est aussi le roi d'Israël. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Un chrétien qui n'aime pas les Juifs et Israël n'a rien compris à la Bible. Un chrétien qui n'aime pas les Juifs et qui n'aime pas Israël n'a pas compris la Bible. J'ai ici le livre d'un dénommé Jules Isaac. On a compris que c'est un juif. Hein? Qui connaît Isaac? Malé Isaac, ça vous dit quelque chose? Un livre d'histoire. Hein? C'est un historien juif. Un historien juif qui a écrit des livres d'histoire, mais qui a écrit aussi un livre qui s'appelle Jésus et Israël. Il a commencé à écrire ce livre avant la guerre de 39-45. Malheureusement, la guerre est venue, il a perdu toute sa famille. Et il écrivait déjà, il disait, mais chrétiens, je vous en supplie, acceptez que Jésus était juif, que Jésus est venu des juifs, et que Israël, c'est le peuple de Dieu, et que, voilà, vous ne devez pas détester Israël. Et à ce moment-là, il y avait évidemment déjà cet enseignement qui disait, Jésus n'est pas juif. Jésus n'est pas juif, c'est un Galiléen, mais il n'est pas juif. Et ce sont les Juifs qui ont fait mourir Jésus. On doit exterminer les Juifs parce que les Juifs ont fait mourir notre Sauveur, notre Messie. C'est ce que disaient chrétiens, entre guillemets. Mais je ne crois pas que c'était des vrais chrétiens. On ne peut pas, en tant que vrai chrétien, si on lit la Bible, un chrétien qui lit la Bible, il ne peut pas détester les Juifs et les Israéliens. Parce que c'est le fondement. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, le salut vient des Juifs. Jésus, roi des Juifs. Jésus était juif, né d'une mère juive. Relisons Matthieu, chapitre 1, 16 et 18. Dans notre confession de foi, c'est écrit, hein, dans notre église, on a mis que voilà, nous aimons les Juifs finalement, que nous aimons Israël, que nous croyons à la restauration d'Israël, que Dieu va accomplir ses promesses qu'il a données. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Jésus, il est bien né d'une mère juive, donc il est juif. Il est juif. Et verset 18 encore, regardons ça. Verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, voilà, Marie, sa mère, c'est juste pour lire cela. Hein. Donc c'était bien sa mère, et sa mère était juive. Regardez maintenant dans Jean, chapitre 18 et verset 33, ce dialogue 33 à 37 entre Pilate et Jésus. Jean 18, 33, nous lisons... Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toute la question. Jésus lui répondit « Est-ce toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On comprend que donc Jésus évoque un règne spirituel, hein. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Quelle belle affirmation. Et en tant que roi, il doit donc régner. Regardez Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Regardez la promesse que l'ange fait à Marie. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Notez bien, éternellement, son règne n'aura pas de fin. Fils de Marie, fils de David, fils d'Abraham, plus juif que lui, hein? Il n'y a pas. Jésus était vraiment juif. Hélas, on sait qu'il n'a pas été bien reçu par son peuple. Malgré l'accueil des rameaux, regardez Matthieu toujours, chapitre 21, verset 5. Hein, on aurait pu penser à ce moment-là que voilà, le peuple juif avait reconnu Jésus comme leur roi, comme le Messie. Regardez ce qu'il est dit ici, hein, citation, il entre dans Jérusalem, accueilli avec des branches d'arbres, des chants, dit à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une nièce. Une prophétie là, hein, qui est citée pour dire, voilà, c'est bien le roi des Juifs qui entre dans Jérusalem ce jour-là. Hélas, il n'a pas été accueilli. Et c'est un message pour nous aussi aujourd'hui. Jésus, il vient à vous ce matin. Est-ce que vous lui ouvrez votre cœur pour dire, Seigneur Jésus, je t'accueille, tu es mon roi. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Hein? Regardez-le. Il vient à vous plein de douceur, plein d'amour, dépouillé de toute sa gloire. Donc, roi des Juifs, roi d'Israël, un roi doit régner et... Il a un trône. Où est le trône de Jésus aujourd'hui? Alors d'abord, il y a un trône au ciel, évidemment. Matthieu 26, hein, 63-64. Hein, Matthieu 26, 63-64, la Bible dit que Jésus gardait le silence. C'est encore une interrogation. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc autrement dit, est-ce que tu es le roi? Et s'y répond Jésus, Tu le dis de plus, oui, tu le dis, oui, je suis le Messie, le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Assis à la droite, donc son trône, il a un trône dans le ciel, assis à la droite de Dieu. On l'a vu la semaine dernière, Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est quand on s'assied à côté de quelqu'un pour lui parler, c'est qu'on a des choses à lui dire. Hein. On va prendre le temps. Hein. Donc Jésus, ça fait 2000 ans qu'il intercède encore là-haut pour nous. Mais évidemment, Jésus a aussi un trône sur terre. On l'a lu, hein. Il est parlé du trône de David, son père. Jésus doit régner un jour ici-bas aussi. Certains disent que Jésus règne déjà aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, nous serions déjà dans le règne de Christ. Ça serait décevant quand même si c'était le cas, parce que franchement, quand on voit le monde tel qu'il est, on ne voit pas encore établi le règne de Christ. Hein, c'est encore quelque chose à venir. Ça viendra un jour. Regardez Matthieu toujours 19, 28. Matthieu 19, 28. Vous voyez que Matthieu parle beaucoup hein, du roi et du royaume. Hein. C'est vraiment le thème. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, donc Jésus, au renouvellement de toutes choses, donc c'est encore un temps à venir, sera assis sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus assis sur un trône, on retrouve la même idée un peu plus loin dans Matthieu, toujours 25, 31. Matthieu 25, 31, encore une allusion à ce trône, lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire, donc il va venir sur terre avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Il y aura probablement un trône glorieux à Jérusalem où Jésus s'assiera pour juger, pour gouverner, pour régner. C'est notre attente aussi. Hein. Nous appelons cela le millénium dans la Bible, le règne de 1000 ans. Voilà. Alors voilà. Un trône dans le ciel, un trône sur terre, mais où doit régner encore Jésus ? Dans nos cœurs. Hein. Hier, en fin d'après-midi, j'ai un peu interrogé les préados qui étaient là, et je posais la question, voilà, alors, où est Jésus aujourd'hui ? Et plusieurs m'ont dit, il est là, il est dans mon cœur. C'était touchant de voir ces ados-là dire, voilà, c'est là. Et c'est vrai, c'est là qu'il doit être. Est-ce que Jésus est là dans votre cœur, dans votre vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il règne ? Il y a un trône dans votre cœur, savez-vous ça ? Vous savez que dans votre cœur, en vous, il y a un trône, il y a un siège. Qui est assis sur ce siège, sur ce trône ? Est-ce que c'est vous, votre ego, ou est-ce que c'est Christ ? Voilà. Il faut que ce soit Christ. Luc 17, versets 20 et 21. Jésus évoque cela probablement dans ces versets un peu mystérieux. Hein. Regardez, il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ? Voilà, quand est-ce qu'il va venir ? Ils attendent un royaume visible, terrestre. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, ou ne vient pas en frappant les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comme on le disait tout à l'heure, le royaume de Dieu, c'est maintenant déjà. C'est là, il est là. Mais il est invisible, il est caché, il est dans les cœurs. C'est Jésus-Christ qui est le roi, le Seigneur de nos vies. Est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre vous ? Voilà. Est-ce qu'il est votre Seigneur et votre roi ? Mais évidemment, pour qu'il soit votre Seigneur et votre roi, il faut d'abord qu'il soit votre Sauveur. Est-ce que vous avez cru en Jésus comme votre sauveur, cru qu'il était, voilà, tout ce qu'il a subi tout à l'heure, on l'a lu, hein, c'était pour vous, pour vos péchés, voilà. Il vous a sauvé, il vous a racheté. Donc on a vu le trône, le royaume, on va parler du royaume un petit peu, donc le royaume de Christ, c'est, bien sûr, il va régner sur Israël, mais il va régner sur le monde aussi, parce que Apocalypse 15, verset 3, nous dit, concernant le Seigneur, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, c'est Jésus, en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Jésus est non seulement le roi des Juifs, le roi d'Israël, mais il est le roi des nations. Il est le roi, on va le voir, des rois, et le seigneur des seigneurs. On peut lire le verset suivant d'ailleurs aussi, qui est très beau. Qui pourrait ne pas te craindre ? Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom ? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer. Voilà, toutes les nations viendront adorer Jésus comme le roi, parce que tes actes de justice ont été révélés. Et puis regardez encore le chapitre 19 et le verset 12, qui est finalement ce verset qui est ici. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête, voilà. Il ne porte plus la couronne d'épines là, mais il portera d'autres couronnes, des couronnes de gloire, des diadèmes, dit notre version. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Verset suivant, nous lisons aussi le verset qui suit. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. Alors, je suis en train de chercher ce verset, mais je ne le trouve pas. C'est 17. On est au chapitre combien ? 19 ?
C'est le verset 16.
Alors, on passe au verset 16, voilà. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, j'aime bien ce verset parce que c'était sur la cuisse, vous savez. On n'a pas attendu Adidas et toutes ces marques pour mettre sur les pantalons, là, sur la cuisse, des marques et des noms. Jésus avait déjà ça, il a déjà écrit. Enfin, c'est quelque chose à venir, en fait. Hein, c'est prophétique, mais roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà ce qu'il est. Hein. Voilà son royaume. Son règne, parlons de son règne lui-même, il sera éternel, on l'a vu, hein, un règne éternel. Il y a un texte, une prophétie qui dit que le Père parle à son Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Un trône éternel. Et regardez cette prophétie de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, pour vous montrer que c'est dans toute la Bible. Hein. Daniel 7, 13 à 14, qui fait allusion à la venue du Messie, à la venue de ce roi. Lui aussi, il a une vision, donc Ézéchiel a une vision, Daniel, Jean. Pendant que je regardais, dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, c'est Jésus, hein, est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, vers Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Vous savez, quand Jésus vient dans votre cœur, c'est pour toujours. Il y a des gens qui pensent qu'on peut perdre son salut. On peut être sauvé aujourd'hui, perdu demain, sauvé après-demain, reperdu à nouveau. Non, quand Jésus il entre dans un cœur, c'est pour toujours. Il devient roi, il devient seigneur éternellement. C'est ce que dit le Seigneur lui-même dans l'évangile de Jean, hein, quand il dit qu'il nous donnera un consolateur, l'Esprit Saint, afin qu'il demeure éternellement avec nous et en nous. Regardez encore Luc 1, 31 à 33. On revient à cette prophétie de l'ange qui est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte. Luc 1, 31. « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » On va le lire ensemble, lisons, on va relire tout ça ensemble, allez, ça fait du bien. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. On parlait de l'éternité l'autre jour à l'étude biblique. On dit l'éternité, on arrive à concevoir l'éternité à partir de maintenant. Hein, on démarre là et puis ça ne finit pas. Mais il y a aussi l'éternité de l'autre côté. Seigneur, voilà, ni commencement ni fin. C'est long l'éternité. Hein. Oui. le Seigneur parle de son règne. On va terminer avec, dans l'Apocalypse, un beau verset, Apocalypse 20, versets 11 et 15. Apocalypse 20, versets 11 et 15. Voilà, là on arrive dans ce règne de 1000 ans hein, qui annonce le règne éternel. Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis. Voilà, on retrouve le trône. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et on ne trouva pas de place pour eux. C'est qui est assis sur le trône pour juger là? Bonne question, hein? C'est une bonne question parce que première pensée, c'est qui va juger?
Christ.
Dieu. Mais la Bible dit qu'en fait, c'est Jésus. Il a remis tout jugement au Fils, il est dit. Hein? C'est lui qui va juger. Ouais. C'est lui qui va juger. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit le verset 15? Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Hein? Donc voilà, le jugement est annoncé. Hein? Christ va juger, il va régner. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles, dit aussi l'Apocalypse. Il y a un roi, il y a forcément une reine, n'est-ce pas? C'est l'Église. C'est l'Église, l'épouse de Christ. Hein. C'est Apocalypse 19 qui nous parle de ça. Apocalypse 19, tout ce beau passage, c'est magnifique quoi, de voir qu'un jour il y aura un mariage. On aime bien les mariages. Hein. Je sais que moi j'ai des femmes à la maison, dès qu'il y a un mariage princier, quelque chose, voilà, elles aiment bien regarder ça. Hein. Eh bien, il y aura un mariage royal, là, mes amis, royal, hein. Les noces de l'agneau, Apocalypse 19, verset 9, ou même verset 7, déjà. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse est préparée. Son épouse, c'est l'Église, c'est nous. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les heureux justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Voilà, et ça continue dans le chapitre. La Bible nous dit que nous régnerons avec Christ. Voilà, l'Église chrétienne, c'est nous qui formons l'épouse et nous régnerons avec Christ. Nous serons à ses côtés. Et c'est pour cela qu'on revient dans ce verset qu'on a lu avec notre frère Léo tout à l'heure. Voilà. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est la première chose que nous devons rechercher. Est-ce que c'est numéro un pour vous, hein? Le royaume de Dieu, c'est d'abord Jésus roi dans votre vie. Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce que Jésus est votre Seigneur? Est-ce que celui qui dirige votre vie? Voilà. C'est par là qu'il faut commencer. Et le Nouveau Testament commence par là. Jésus, roi. Voilà, première chose. Après, on verra d'autres aspects de Jésus-Christ. Mais d'abord, vous devez avoir reconnu Jésus-Christ comme votre roi. Voilà. Celui qui conduit votre vie en toutes choses, celui qui est votre Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons de ta sagesse, de ce que dans la Bible tu nous as laissé, des prédictions, des prophéties. Et tu nous as laissé aussi, bien sûr, écrit l'accomplissement de tout cela. Merci pour les quatre évangiles. Merci pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour le fait que tu as accepté d'être humilié, d'être moqué, d'être frappé, d'être crucifié pour nous. Toi, le roi, tu t'es incliné. Toi, le roi, tu t'es laissé faire parce que tu nous aimais. Oh Seigneur, que pouvons-nous faire en retour sinon te donner notre vie, notre cœur, Seigneur, et te dire sois notre sauveur, sois notre Seigneur, sois notre roi. Seigneur, nos vies t'appartiennent et nous voulons vivre avec toi pour l'éternité, nous voulons régner avec toi pour l'éternité, Seigneur. C'est notre désir, notre espérance et notre attente. Pendant que nous sommes dans le recueillement et dans la prière, j'aimerais vous donner l'occasion ce matin, si vous ne l'aviez pas fait, de donner votre cœur au Seigneur. Comme ces enfants hier qui m'ont dit, voilà, il est là Jésus. Est-ce que Jésus est là dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'était pas sauvé? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui n'aurait pas encore donné sa vie à Jésus-Christ? Vous pouvez le faire ce matin, c'est une occasion encore. Pour le manifester, je vous inviterai à lever votre main. Juste un geste direct, priez pour moi, pasteur. Je veux que Jésus entre dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire ce matin? Qui veut donner son cœur au Seigneur? Qui veut que Jésus soit son roi? S'il y a quelqu'un qui veut le faire. J'espère que chacun l'a fait ici. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui vois les cœurs. Tu l'as dit, c'est quelque chose de caché, ton règne. Nous ne voyons pas toujours, Seigneur. C'est intérieur. Mais un jour, ça se voit comme à l'extérieur. On le voit dans nos vies, Seigneur. Eh bien, puisse nos vies montrer que c'est toi qui règnes en nous. Amen.